bout du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, bienvenue à tous. Bonjour Alessandra.
Bonjour Clémence.
Alessandra Montagne, comme nous sommes heureux de vous avoir à notre table aujourd'hui, Alessandra Montagne.
Merci, la joie est partagée.
Vous êtes chef cuisinière, chef du restaurant Nosso à Paris, dans le quartier tout nouveau de la Grande Bibliothèque. Tout nouveau, on est d'accord, un petit peu sans chaleur, cependant maintenant il y a Nosso, du coup on a un refuge où se retrouver et retrouver pour le coup un peu de chaleur votre restaurant Nosso. Quatre lettres et tout un projet, j'ai envie de dire. Déjà, Nosso, ça veut dire quoi?
Alors, Nosso, en portugais, ça veut dire le nôtre, à nous.
À nous. D'accord, c'est pas nous, c'est vraiment à nous.
À nous, c'est le nôtre.
Donc, quand on vient chez vous...
C'est notre bouteille. La bouteille nous appartient toutes les deux.
D'accord.
Tu vois, c'est à nous, nos garrafe.
D'accord.
Notre bouteille.
Donc, quand on est chez vous... On est un peu chez nous.
On est un peu chez nous. Le but, c'est que les gens se sentent bien. Alors, au tout départ, j'ai pensé plutôt aux personnes qui travaillent et qui passent beaucoup de temps.
Oui, parce que c'est un quartier, en plus, c'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux.
Beaucoup de bureaux.
Une gare,
oui,
juste
voilà,
à côté.
Donc, un endroit un peu de chaleur, quoi. Voilà, sortir un peu la tête du travail et se sentir. Un peu chez soi.
Un peu chez soi. Et comment vous êtes venue justement l'idée de Nosso? C'est une idée que vous nourrissez depuis longtemps?
Alors, cet endroit, oui, j'avais avant un tout petit restaurant qui s'appelait Tempero, qui était vraiment tout petit. Les conditions de travail étaient très difficiles, j'avais une toute petite cuisine. Et j'avais ressenti à un moment donné un besoin, en fait, de m'agrandir, d'évoluer dans mon métier, dans ma profession. Et avoir un endroit avec une cuisine plus grande, avec plus de matériel, avec un peu plus de confort de travail, c'était indispensable. Donc, j'ai répondu à un appel d'offres et j'ai eu Nosso. Mais au départ, il s'appelait pas du tout Nosso. Et c'est au fil des temps et de la construction du projet que ce nom est devenu une évidence. Nosso est devenu une évidence aussi parce que ce projet a été... J'étais très entourée par les personnes avec qui je travaille, avec les membres de mon équipe. Et il fallait que ça soit un petit peu à eux aussi. Je ne veux plus construire des projets qui m'appartiennent, en fait. En fait, quand on monte une entreprise, même si on ne monte pas dès le départ, mais des personnes qui travaillent là-dedans, il faut, en fait, ce n'est plus que justice, ce n'est que justice d'ailleurs, que l'endroit l'appartienne un peu, en fait. Tu vois, qu'ils puissent, si un jour ils s'en vont de cet endroit, qu'ils ne partent pas juste avec un solde de tout compte, parce que ce n'est pas juste, ils ont participé à la création de valeur. Donc, ça les appartient. Donc, trouver un moyen, comment on fait maintenant pour les personnes qui sont là, pour que cet endroit soit un petit peu à eux.
Un petit peu à eux.
Voilà.
Aussi. C'est une famille.
Bien sûr, c'est ça, absolument. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Et c'est important que cet endroit, l'humain, toutes les personnes qui ont travaillé dedans puissent, en fait, être reconnues. La personne qui a fait les travaux, j'adore. Monsieur Suta, il est incroyable. La personne avec qui j'achète la vaisselle, la personne qui vient le matin nettoyer avant qu'on arrive, c'est tellement gentil. Ça peut pas venir, on est tous impactés par ça. Donc, on va pas dire dans une chaîne qui a un maillon faible, mais forcément. Mais ce maillon faible, c'est finalement le maillon le plus fort, en fait. Mmh. Parce que on est tous pareils, on est tous égaux dans une société et on a tous sa valeur. Et chez Nosso, j'essaie vraiment de forcer le trait sur cet aspect.
Chacun est impliqué. Chacun appelle Nosso avec lui. Et donc, quand il s'en va, il l'emporte avec lui.
Et j'ai ressent aujourd'hui sur chaque personne, et j'ai l'impression que Nosso coule dans leurs veines. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est hyper beau, c'est hyper fort, quoi.
Nosso, c'est un langage, c'est votre moyen d'expression, c'est la cuisine. Est-ce que j'ai dit que vous étiez brésilienne? Parce que ceux qui sont avec nous depuis le début de cette émission, outre la bossa nova du début, qui était un indice, vous êtes donc brésilienne.
Ouais.
Vous êtes arrivée en France il y a combien de temps maintenant?
Je suis arrivée en France le 21 novembre 1999. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. C'est la première fois que j'ai quitté le Brésil et j'étais jamais partie ailleurs, à l'étranger. Et il faisait très froid et le ciel était bleu. Je sais pas, c'était des odeurs différentes, des sensations, parce qu'il faisait froid. J'avais jamais ressenti le froid comme ça qui rentre par le nez. Respirer le froid, c'est très bizarre. Et je me rappelle encore, c'est inoubliable le premier jour, les premières sensations, l'architecture, les odeurs quand on passe à côté d'une fromagerie. Tout ça, c'était nouveau et c'était tellement puissant, tellement beau.
Oui, d'arriver sur un nouveau sol.
C'est ça, ouais, un sol où j'ai su immédiatement que ce serait le mien, en fait.
Mais comment la cuisine s'est-elle, parce que vous êtes cuisinière aujourd'hui, je crois que vous n'étiez pas cuisinière quand vous avez posé vos pieds sur ce sol-là.
Oui, en fait, je suis venue en France pour passer 6 mois, 1 an. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte, en fait, que, enfin, j'ai vu que ce pays est extraordinaire. Et d'ailleurs, les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point on est dans un pays extraordinaire. Je me suis dit tout de suite que je voulais rester là. J'ai ressenti intimement que j'aimais ce pays, mais immédiatement, hein, le jour où je suis arrivée. Je me rappelle le premier endroit en sortant de l'aéroport. Donc, mon beau-père m'a amené avec ma mère pour voir la Tour Eiffel, directement Charles de Gaulle, Tour Eiffel. En sortant de la voiture, que j'ai levé ma tête en haut, j'ai senti un truc tellement fort, mais tellement dingue, mais tellement puissant. Et je me suis dit, voilà, je vais rester ici pour toujours. Maintenant, comment est-ce que je vais m'organiser? Je vais avoir un visa étudiant, en fait. Je n'ai pas le droit de travailler, une carte de séjour de 6 mois. Donc, il a fallu bouger les montagnes, au final, pour pouvoir... Et à chaque année, ça a pris des années avant de dire, c'est bon, maintenant je suis sauvée. Maintenant, c'est bon, c'est aussi chez moi. Mais aujourd'hui, je donne tellement de valeur à ça. Et je suis tellement fière de dire qu'aujourd'hui, je suis française autant que brésilienne.
Parce Vous avez la double nationalité.
J'ai la double nationalité. Je suis tellement fière, mais tellement...
Je vais revenir sur la cuisine, parce que vous n'étiez pas cuisinière, donc étudiante. La cuisine, c'était quoi dans votre vie quand vous êtes arrivée en France?
En fait, la cuisine a toujours été très présente dans ma vie parce que j'ai grandi dans un tout petit village au Brésil. J'ai été élevée par mes grands-parents, en fait. Et ma grand-mère, elle avait eu 9 enfants. Moi, j'étais la petite 10e qui arrive totalement à l'imprévu, comme ça. Et j'ai beaucoup participé aux tâches ménagères parce que, imagine, 11 personnes, une 12e personne, enfin, depuis toute petite, mes premiers souvenirs, c'est d'aider, c'est de faire en sorte que mes affaires soient rangées. Et là où ma grand-mère m'a toujours dit, donc, viens, tu vas couper les patates. Oh, viens, on va ramasser les légumes au potager. Regarde, tu vas touiller le riz. Mais genre, toute petite, 5 ans, j'étais sur un tabouret en train de touiller le riz déjà. Toute petite, petite.
Ouais, vous avez appris en faisant complètement et en observant.
C'est ça. Donc, quand je suis arrivée en France, j'étais super jeune, mais je savais tout faire, en fait. J'ai cuisiné, je faisais à manger. La première fois où j'ai invité des amis à la maison, bah, ils avaient tous mon âge, ils sont arrivés, ils croyaient pas, quoi. C'est toi qui fais ça, là, on t'achetait tout prêt. J'ai dit la vérité. Je dis non, pas du tout, j'ai pas d'argent pour acheter tout prêt. J'ai fait moi-même. Et j'étais hyper impressionnée que les gens ne savaient pas cuisiner. En fait, autour de moi. En même temps, on n'avait pas du tout la même vie. Voilà, ils avaient une vie normale, ils allaient à l'école.
Et par normal, c'est-à-dire que vous étiez déjà un peu plus trop dans l'enfance.
Je n'étais pas dans l'enfance depuis très très longtemps. J'ai passé de l'âge enfant à adulte très vite. Avec une grossesse, un enfant qui naît à l'âge de 17 ans. Donc, à 17 ans, j'étais mère de famille, j'étais responsable, j'avais un bébé, j'allaitais, il fallait prendre soin de quelqu'un et puis m'oublier, en fait. C'est ça même, le principe même d'être mère. Et je trouve ça extraordinaire et merveilleux. C'est de s'oublier pour quelqu'un d'autre. Et donc, à 17 ans, bah, j'ai fait aucune bêtise, hein. J'ai jamais fumé de cigarette, jamais été bourrée, parce que
je sais même pas ce que ça veut dire.
je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça. Donc, j'étais tout de suite très responsable.
Donc, vous êtes arrivée en France, et là, pour le coup, effectivement, vous aviez une expérience de vie.
J'avais une expérience de vie que les gens autour de moi n'avaient pas idée, ne pouvaient pas songer. Et heureusement pour eux, heureusement qu'ils étaient épargnés et protégés de ça. Mais voilà, on était très différents. Il ne fallait pas trop que je raconte qui j'étais en profondeur pour pas choquer. Donc j'ai mis beaucoup d'années en fait à pouvoir devenir proche de certaines personnes qui aujourd'hui sont une véritable famille, des gens, même si je les vois pas souvent. J'ai deux copines, une qui habite à New York qui s'appelle Johanna, une qui habite à Paris qui est architecte qui s'appelle Maud. On se connaît depuis 22 ans, on se voit pas tout le temps, mais elles sont là et je sais qu'elles sont là. Et c'est des gens que j'aime, comme toutes les autres hein, d'ailleurs, mais des gens que j'aime terriblement, quoi, parce qu'elles sont là.
C'était un moyen d'expression, la cuisine?
Alors, oui, en fait, au final, quand j'ai quitté le Brésil, j'ai laissé un enfant derrière moi. Je pouvais pas l'amener avec moi. En fait, venir en France, c'était pouvoir l'offrir un avenir, mais dans l'idée, c'est je viens, j'apprends à parler français, je retourne, je trouve un travail, parce que je sais parler une deuxième langue, j'avais un job qui m'attendait. Et donc j'allais pouvoir lui offrir une vie correcte, un foyer, voilà. Au Brésil, les opportunités sont rares. Une femme noire, pauvre, sans aucune possibilité financière d'aller à l'université, puisque là-bas c'est payant. C'était une chance de pouvoir venir ici. Donc on s'est organisé tous autour des oncles, des tantes pour prendre soin de mon enfant pendant cette période.
Il fallait transformer cette chance, chance devienne sa chance.
C'est ça, qu'il devienne sa chance en fait. Encore une fois, c'est mon but dans la vie depuis qu'il est né, c'est qu'il puisse faire des études, qu'il puisse avoir une chance de devenir quelqu'un en fait, chose que je ne considérais pas que j'étais. Donc il fallait que moi je bosse pour lui. Et c'était le moteur de ma vie, cet enfant. C'était lui qui m'a poussée, c'était pour lui que j'ai tout fait pour lui en fait. Tu vois, je suis en France pour lui. Je fais ça pour mon fils, pour mon fils, pour mon fils, toujours pour mon fils. Et la cuisine dans tout ça, c'est, j'ai cuisiné, pourquoi? Parce que je me sentais proche de mon pays, je me sentais proche de lui quand je faisais la feijoada, que je faisais des trucs, je faisais à manger. C'est la seule chose, en fait, je suis arrivée ici, j'avais une petite valise, j'avais rien. Voilà, j'avais rien, j'avais mes souvenirs, j'avais ça.
Et des mains.
Et mes mains. Et je voulais faire manger, je voulais montrer qui j'étais à travers la cuisine.
Et vous avez réussi.
Je pense que c'est pareil pour tous les étrangers, parce que tu peux remarquer que quelqu'un qui vient d'ailleurs, quand tu lui demandes de faire manger, il est trop content parce qu'il veut montrer son chez-soi, son histoire, quoi. Et tout passe par là. On n'a rien. Mais, enfin, après, c'est particulier, mais j'avais vraiment rien, quoi. Rien. Je vais juste me souvenir. Juste mon langage, qui était la cuisine. Donc, j'ai cuisiné beaucoup pour les gens, pour les amis, pour à chaque fois qu'il y avait un baptême, un pique-nique, un mariage, tout. Ma chance était Alessandra, c'est Alessandra. Donc, de petit à petit, c'est devenu une habitude. Ah, tiens, on va faire un truc qu'on appelle Aless.
Et c'est comme ça que vous vous êtes dit, ben, finalement, peut-être que je peux en faire un métier.
Voilà.
Et donc, vous vous rendez compte, Alessandra ouais. Montagne? En ce temps. Parce que j'aurais juste vous faire écouter quelque chose qui s'est passé assez récemment. Et on se dit, c'est dingue.
Alessandra, tu es là.
Bonjour.
On va présenter rapidement cette masterclass qui se prépare. Vous voyez qu'il y a plein de monde là. Je vous laisse deviner le nom de ce restaurant qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, qui veut dire nous, qui s'appelle Nosso. Et on va applaudir très chaleureusement Alessandra Montagne. Alessandra, viens juste ici une seconde qu'on puisse te voir. Et on peut commencer la musique alors.
Merci, bonjour à tous.
Oui, on a une sacrée famille pour la plupart de ceux qui sont ici.
Oui, on les applaudit s'il vous plaît.
C'est la première fois que je monte sur scène omnivore. Pour moi, ça compte énormément. Donc, merci beaucoup d'être là.
On applaudit.
Et partager ça avec moi, partager cette émotion et ces quelques instants avec moi.
Alessandra, omnivore.
Oh, c'était incroyable.
Septembre,
ouais.
C'est un festival gastronomique en France qui se tient chaque année. Et là, vous aviez la grande scène.
Oui, c'est la première fois. En fait, j'ai toujours regardé Omnivore de loin. Oh, c'est incroyable. Ah oh là là, tous ces chefs, j'étais tellement inspirée. Et quand ils m'ont proposé à moi de le faire, je l'ai reçu. Je me rappelle, j'étais dans le métro quand Romain Rambeau m'appelait. Je me suis mis à pleurer. Je n'arrivais pas à parler. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais moi, je suis pas à la hauteur, quoi. Je suis pas comme vous. Enfin, moi, la petite Alessandra, non, c'est une blague. Est-ce que tu es sûre? Tu te trompes pas de personne? C'est pas grave si tu me dis si tu as trompé de numéro.
C'est bon, on peut raccrocher, il y aura pas de problème.
Non, c'était vraiment moi. J'étais là, mon Dieu. Mais, voilà, j'étais hyper contente. J'avais très peur. Ouais, c'était un moment de malade parce que si tu regardes la liste des gens qui passent sur scène, c'est quand même des très bons cuisiniers, en fait.
Oui, on a des étoiles plein les yeux, sur les plastrons.
C'est ça, et je trouvais pas forcément ma place là-dedans. Et j'ai beaucoup stressé parce que je ne savais franchement pas quoi faire. Parce que c'est une grande scène, une démonstration culinaire, et c'est un festival avec des gens passionnés de cuisine qui connaissent tout. Et je dis, mais j'ai rien à montrer. Mais
donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, Alessandra, finalement, oui, je crois que j'ai trouvé ma place là.
Bah, de toute façon, j'ai dit oui, il fallait que je trouve la place. Hein. Il n'y avait pas le choix. Hein.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Oh, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar.
Nous venons d'écouter une chanson qui est très importante pour moi, qui a été interprétée par Caetano Veloso, Gilberto Gil et Maria Bethânia.
Qui s'appelle comment?
Alguém me avisou. Quelqu'un m'a prévenu. En français, ça veut dire ça. Et cette chanson, elle est hyper forte parce que du coup, je ne savais pas quoi faire sur la scène omnivore. Je ne savais pas quoi faire. Je pense encore que je n'avais pas... la connaissance culinaire pour présenter une grande scène omnivore. Voilà, j'ai passé juste après un chef étoilé et après moi, il y avait encore un chef triplement étoilé. Donc, voilà.
Donc, en fait, vous n'aurez jamais cette confiance-là que tout le monde a pour vous, cela dit.
C'est-à-dire que c'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est compliqué. C'est je pense que c'est dû à mon histoire. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à dépasser ça. Mais pour l'instant, ça vient. C'est déjà beaucoup mieux, ça vient. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire comme tout ce que j'ai fait tout le temps, c'est d'être moi-même et de pas mentir. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais me montrer telle que je suis. Je vais prendre une rode du samba. C'est un petit groupe de musique qui chante dans des tout petits endroits hyper simples qu'on appelle boteco ou des petits bars tout petits, tout simples et qui mangent des petits trucs brésiliens très, très simples. Donc, c'est quelque chose presque de pauvre, mais voilà, très simple, mais très joyeux. Très beau, très touchant, mais très simple. Et du coup, j'ai décidé de faire à manger et faire à manger en parlant de gaspillage alimentaire, que c'est quelque chose qui me touche terriblement.
Parce que vous détestez l'injustice aussi.
Je déteste l'injustice.
Et il y a des choses dans votre vie que vous pouvez pas entendre. Le gaspillage en est une.
Non, le gaspillage, c'est pas possible. Jeter de la nourriture alors qu'il y a tant de gens qui meurent de faim, c'est pas possible. Et là, donc, je voulais parler de ça et j'ai décidé de faire un plat qui était le plat préféré de mon grand-père. Et quand j'ai vu le choix de musique qui était fait, je n'ai pas intervenu. C'est un groupe qui est venu jouer sur scène pour moi, gratuitement. Donc, je l'ai laissé carte blanche. Jouez ce que vous voulez, je m'en fous. Et là, quand je vois Ogui Miyavizo, je dis, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait le plat préféré de mon grand-père qui s'appelle Angu. C'est un plat à base de maïs. Et j'ai valorisé le maïs à 100% sur cette grande scène. Et j'ai pensé à lui tout le temps, à chaque fois, chaque parole, chaque mot. C'était les conseils, parce que voilà, dans la famille ou dans le petit village, quand quelqu'un part, il y a le grand-père ou le père qui donne les conseils. Attention, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et ces conseils m'ont suivi, en fait. Donc, le fait de m'avoir prévenu de tant de choses, tout est dans cette musique. Attention, frôlez ce sol doucement, allez-y doucement. Tu vois, on parle de ça dans cette musique.
Ne pas s'imposer, suivre un peu le mouvement, voir c'est comment ça. Ça se passe.
C'est ça. Il me disait, attention, boy, inter allié, y avait la vaca. Toi, t'es un bof, mais là, c'est pas ton pays, tu deviens une vache. Donc là-bas, tu baisses la tête.
Parce qu'on ne te connaît pas.
Si on ne te connaît pas, donc tu baisses la tête, tu rases les murs, tu fais attention, tu sois poli avec tout le monde, tu écoutes, tu t'obéis. Voilà, tout ça, évidemment que moi je suis au fond de moi quelqu'un qui fait toujours les choses et j'ai fini toujours par... J'ai un esprit très moteur en fait, très de survie en fait. J'ai un instinct de survie que j'étais obligée de l'avoir pendant plusieurs années dans ma vie et cet instinct de survie ne vous quitte plus. C'est quelque chose qu'une fois qu'il est là, qu'il est installé, je vis en fait comme ça.
C'est une seconde nature.
Une seconde nature. Mais ces conseils m'ont été quand même précieux. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, je me rends compte encore plus à quel point c'était un homme extraordinaire, mon grand-père. Et la chance que j'ai eue d'avoir été élevée par lui.
Dans ses conseils. Stéphane Méjanès, vous le connaissez, c'est un journaliste.
Je connais Stéphane Méjanès, bien sûr.
Qui est critique culinaire aujourd'hui, mais qui n'était pas critique culinaire il y a encore une dizaine d'années.
Il paraît qu'il a été journaliste sportif.
Tout à fait, et qui s'est réinventé à peu près au moment où vous émergiez aussi. Je vous propose de l'écouter.
Alessandra, je l'ai rencontrée par Omnivore, qui est un peu ma famille, entre guillemets, dans la gastronomie. C'est par là que je suis arrivé dans cet univers. Et Alessandra est depuis assez longtemps une compagnonne de route. Dès mon premier Omnivore, c'est-à-dire un festival parisien en 2012, voilà, dans ces eaux-là, 2013. Ça fait un petit moment. Après, on s'est croisés pas mal de fois. Et puis maintenant, on n'est pas proches, on n'est pas intimes, mais on se connaît assez bien. Et on se voit de temps en temps, dans son resto principalement, mais aussi sur pas mal d'événements. C'est un compagnonnage, c'est un petit monde. Et Alessandra, il y a toute sa place. Notamment dans cette nouvelle génération de femmes qui investissent la gastronomie et se vend nouveau et assez frais. C'est quelqu'un de profondément humain, en fait. Elle a vécu des choses assez difficiles, mais c'est pas ça qui l'a définie, mais c'est ça qui l'a construite. Et puis malgré toutes ces épreuves diverses et variées, je crois qu'Alessandra a fait le choix de croire encore en l'être humain, encore et toujours. Et c'est ça qui la guide, à la fois dans son rapport à ses équipes, à son équipe du restaurant, Tempero autrefois, Nosso aujourd'hui, où elle a vraiment créé un management de la bienveillance absolue avec tous les gens qui composent son équipe, qui sont généralement assez fidèles, qui la suivent un peu partout. Et voilà, c'est ce genre de restaurant où il fait bon aller manger, mais je pense où il fait bon aussi travailler, et c'est essentiel. Elle a choisi de croire aussi que le restaurant doit être accessible, que la bonne nourriture doit être accessible au plus grand nombre, si possible. elle fait ce choix aussi de vraiment s'approvisionner au plus près de chez elle. Et puis elle fait aussi le choix de l'humain par rapport à ce que la nourriture, l'alimentation doit nous apporter, pas seulement du plaisir, un plaisir gustatif qu'elle sait magnifiquement présenter dans ses assiettes, mais aussi un peu dans l'esprit de slow food, ce qui est bon, propre et durable, pour être sûr de faire du bien. Voilà. C'est ce qui la résume, elle a envie de faire du bien, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui est lumineux, solaire, c'est quelqu'un de très tactile, elle vous voit, elle vous attrape, un grand sourire, elle vous fait un câlin, et puis on est tout à coup régénéré pour un petit moment. Donc voilà, c'est une espèce de comète, mais enfin qui dure, elle est là. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alessandra, c'est quelqu'un qu'on est toujours joyeux de retrouver. C'est assez unanime, quoi, quand on parle d'Alessandra. Tout à coup, les sourires s'allument, les yeux pétillent. Elle crée quelque chose, quoi.
Je crois que c'est assez unanime, effectivement, Alessandra Montagne. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez Stéphane Méjeunesse comme ça parler de vous ?
Alors, Stéphane, c'est quelqu'un que je respecte énormément professionnellement et personnellement. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de super sympa, super juste.
Est-ce qu'il en dit des choses sur vous, là ? Vous respectez les hommes, vous respectez la terre, vous travaillez localement, vous êtes engagée.
C'est super beau de l'entendre. Je suis super émue, super touchée et je le remercie infiniment parce que je l'ai fait toujours naturellement et on ne se rend pas forcément compte qu'on fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire?
Quand on les vit. Alessandra Montagne, il y a 3 ans déjà, bientôt 4 ans, quand vous êtes venue dans le goût du monde nous parler de votre goût de la France, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Écoutez donc.
Depuis le début, depuis que je travaille, depuis que j'ai ce restaurant, ma première préoccupation, c'était de travailler avec des producteurs qui sont tout près de chez moi, aussi pour une question d'écologie, mais il y avait aussi le fait de travailler avec des gens qui sont comme moi, des petits producteurs, de faire vivre ces personnes-là, de leur donner le moyen de continuer à cultiver leur terre, donc payer le juste prix pour la marchandise. Et donc je fais des rencontres extraordinaires et depuis, voilà, j'ai plein de gens avec qui je travaille qui sont en région parisienne. Je fais moi aussi la cueillette parce que j'adore. Où ils sont en agriculture raisonnée et il y a des produits incroyables, plein de légumes. Je me régale.
On est d'accord.
Oui. Ça a toujours été comme ça, mais on est dedans, tu comprends. On est en train de faire, on est dedans, on n'est pas en train de se demander si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi. On est là, on fait quoi, on fait. On est dans un tourbillon, dans les choses à faire, dans la journée. Après, évidemment qu'on a des choix. Tous les jours, j'ai des choix. Est-ce que je prends le truc qui coûte moins cher là, qui vient d'Israël, de Canada, j'en sais rien. Ou j'achète, j'ai payé un peu plus cher, mais j'ai nourri les agriculteurs français. C'est des choix, en fait.
Localement. D'ailleurs, dans ces choix, il y a Saint-Denis, le nord de Paris.
Oui, il y a Zone Sensible. Il y a plusieurs petites producteurs. Je travaille beaucoup avec Biovore, qui eux, ils font un vrai travail de sourcing avec les producteurs bio de région parisienne. Quasiment toute ma marchandise vient de là-bas. Et comme ils travaillent avec plein de fermes différentes, du coup, je peux trouver, je sais que c'est région parisienne, je sais que c'est bio, je sais que c'est des petits producteurs. Ils ne travaillent pas avec l'intensif. Et donc, du coup, je sais qu'en passant par eux, il y a un coût, certes, mais il y a aussi la tranquillité d'esprit de savoir que je sais le nom du producteur, je sais comment il est travaillé. Des fois, il m'envoie des vidéos à l'aise, on est un peu en retard, regarde, on est en train de déterrer les carottes. Tu vois, c'est un luxe de recevoir ça à 7h du matin. Ouais. Son téléphone, et quand ça arrive, c'est extraordinaire au niveau du goût, du jus. Enfin, c'est vraiment autre chose, quoi.
Important aussi de savoir que vous payez un coût qui leur permet
de vivre. C'est ça, c'est donner l'argent à quelqu'un, c'est de pas avoir plein de filières, plein de gens, en fait. Et même une question d'énergie, parce que moi, je suis en train de devenir naturopathe. Ces produits ont été faits par quelqu'un avec amour. C'est passé dans leurs mains. Il me l'a donné avec amour. Je sais pas, il y a cette énergie très positive, très belle dans ces plantes, dans ces légumes, dans ces herbes. Et quand j'ai fait, que je donne ça à mes clients, je donne vraiment, je mets vraiment beaucoup d'attention, en fait, dans chaque plat qui part. Et je le pense, je le fais vraiment en pleine conscience à chaque assiette. Et forcément, tu ne peux pas ne pas aimer quand tu reçois ça. Ce n'est pas possible. C'est bien assaisonné, c'est bien cuit, c'est juste. Évidemment, tu n'as pas une quantité, ça déborde pas de partout. Donc, on mange super bien et on mange à sa faim.
Ça, voilà. C'est important.
C'est ça,
oui. Primordial, même. Oui. Vous êtes brésilienne.
Oui.
Vous êtes naturopathe en devenir.
En devenir. Deuxième année, je commence la deuxième année samedi.
Quelque chose me dit que vos racines brésiliennes et l'attachement à la terre n'est pas complètement étranger à votre décision de devenir naturopathe.
Oui, alors c'est vrai que ma grand-mère ne m'a jamais donné de médicaments. C'est toujours des plantes. Ah, le bol d'eau, je peux te dire que j'en ai avalé du bol d'eau. Hein. Bois le bol d'eau, non. Pose ton nez, bois du bol d'eau. Oh, c'est vrai que ça va mieux tout de suite quand on a un peu mal au ventre.
Qu'est-ce que c'est le bol d'eau?
Alors, le bol d'eau, c'est une plante que ma grand-mère me donnait à chaque fois que j'avais un peu mal au ventre. Et c'est une plante, en fait, qui est une plante amère. Donc, c'est des moyennes feuilles vertes. En fait, elle mettait ça dans un verre et elle le pilait comme ça. Elle le faisait macérer. Donc, on avait une espèce d'eau un peu verdâtre, extrêmement amer, et c'est horrible à boire, mais c'est tellement bon pour la santé, parce que tout de suite, plus mal au ventre.
D'accord, parce que ça tout agit sur quoi, du coup?
Alors, en fait, si on regarde bien, alors à chaque fois que quelqu'un a un doute sur une plante, il faut aller sur Wikifito, c'est l'outil de recherche pour les naturopathes. Donc, les propriétés du bol d'eau, elle augmente les sélections biliaires, donc c'est un hépatoprotecteur. Et c'est forcément une plante de foie, puisque c'est une plante amère. Tout ce qui est amer, ça agit au niveau du foie.
D'accord.
Voilà, c'est pareil pour les endives. Manger des endives, c'est excellent pour le foie. C'est une plante amère. C'est le pissenlit, c'est un peu amer. Le pissenlit est excellent pour le foie. Et le bol d'eau, c'est plus, en fait.
Plus, ouais. Excellent pour le foie. Ouais. On en trouve facilement au Brésil ou?
Au Brésil, c'est partout. Ça pousse comme les orties ici. Il y en a partout.
D'accord.
Et en France, il y a des compléments alimentaires à base de bol d'eau.
C'est peu connu en France, le bol d'eau.
C'est, les naturopathes le connaissent bien, donc ils les conseillent bien, le bol d'eau. Les personnes qui s'intéressent un peu, elles peuvent le retrouver facilement.
Mm-hmm.
Mais c'est une plante extrêmement magique. Il y a plein de vertus.
D'accord. Bah, si vous nous écoutez, d'ailleurs, peut-être que vous connaissez, vous, l'équivalent du bol d'eau. Peut-être existe-t-il en Afrique subsaharienne?
Oui, forcément.
En Afrique ou dans des pays exotiques ou sous d'autres latitudes?
Bien sûr. Anti-inflammatoire, antispasmodique. Donc, quand on est jeune fille et qu'on a les règles, on a un peu mal. Au lieu de prendre un spasfon, bah, on va boire un petit verre de bol d'eau.
Voilà. Et on se pince le nez.
C'est bien.
Mais cette sensibilité, cet intérêt pour ce qui nous entoure, pour la terre, ce que la terre produit et le respect de la terre, ça vous...
En fait, je crois que je l'ai toujours eu. Je me rappelle de souvenirs de moi en train de regarder une cascade d'eau et d'être émerveillée à voir un joli arbre. J'adore les arbres. Voilà, je peux passer des heures dans une forêt à regarder comme ça. J'adore la nature, les plantes, le vert. J'aime. Donc, évidemment, quand j'ai compris, assez tard d'ailleurs, le métier de la naturopathie, c'est un truc qui a quand même resté dans ma tête. Donc, j'ai toujours cru aux plantes, j'ai prends très peu de médicaments, donc je me soigne pas mal à travers des plantes et des huiles essentielles, voilà, qui ont des principes actifs qui sont quand même très forts, c'est connu ça. Donc du coup, devenir naturopathe, c'était quand même...
Un juste retour.
C'était presque une évidence.
L'Amazonie compte beaucoup pour vous?
Ah oui, bien sûr. Bah, c'est le poumon de la planète. Là, en ce moment, je sais que c'est très compliqué parce que c'est en train d'être détruit. C'est horrible ce qui se passe. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant plantent beaucoup d'arbres une fois. Et voilà, on achète un vêtement, c'est un arbre planté. Donc à chaque fois que j'achète quelque chose, j'aime bien acheter. Je sais que là j'ai acheté une robe ce week-end, une marque géniale. Je sais que j'achète une robe et un arbre sera planté. Voilà. Après, je vais essayer moi aussi de mon côté de voir ce que je peux faire pour mettre en place, pour aussi planter des arbres.
Mais même dans la sensibilité aux produits que vous utilisez, parce que à Omnivore justement, l'une de vos fournisseurs, on peut l'appeler comme ça,
oui,
de
Thaïs,
produits brésiliens.
Oui. Alors,
c'était une toute petite portion
dans
votre cuisine.
C'est une toute petite portion. Moi, c'est peut-être 2 à 3% par an au niveau de mes achats que j'achète avec Thaïs. Donc, je l'ai fait venir parce que
pour
justement.
Pour parler de quoi?
Pour parler de pain de cage.
De pain de cage et du manioc.
Et du manioc, de manioc. En fait, voilà, je ne veux pas en fait, que les gens disent « Alessandra, c'est locavore, c'est France, c'est Paris ». Non, ce n'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai bois du café, j'ai mangé du chocolat, donc c'est pas vrai. Je ne peux pas ne pas manger des pommes du quai. Je peux pas, j'ai besoin pour moi, pour mes souvenirs, pour me rappeler d'où je viens, de qui je suis. J'ai besoin de temps en temps de ressentir ces goûts que je ne trouve pas ici. Donc, une petite partie de mes produits viennent du Brésil. J'achète ça par Thaïs, qui est une entreprise qui s'appelle Du Brésil au Monde, qui est géniale.
Dont on mettra les coordonnées sur la page internet de la RFI.
Oui, elle fait un travail incroyable. Elle est passionnée de ses producteurs et elle connaît chacun de ses producteurs. Et quand je lui parle d'une recette, elle pense tout de suite à la joie qu'il va avoir le producteur de recevoir cette commande et à quel point ça va changer sa vie d'avoir cet argent. Donc, je paye le prix juste, elle paye le prix juste. Mmh. Voilà. OK, c'est plus cher, mais on fait vivre quand même des gens qui sont quelque part, qui ont besoin de cet argent, qui ont besoin de ces sous. Donc, voilà, c'est comme ça. J'ai un pourcentage de mes produits qui viennent d'ailleurs. Je le montre. J'ai jamais voulu le cacher. Jamais été mon intention. Et tant qu'on fait les choses bien, on peut tout faire.
On est d'accord.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Céleste sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue à tous. Vous écoutez Le Goût du Monde avec la lumineuse solaire Alessandra Montagne, chef du restaurant Nosso, inspirante, généreuse, engagée, on l'a vu. Sa cuisine réjouit tout en vous, en fait, les sens en éveil, les couleurs lumineuses, les goûts, les textures. On pourrait parler de ce porc rôti,
à
la peau croustillante sur le dessus, avec un peu de fondance à l'intérieur. Mais je voudrais revenir sur ce pao de queijo, là. Je ne que je ne sais pas prononcer vraiment très correctement, mais que vous servez quand on vient dans votre restaurant. C'est la première bouchée que l'on a chez Nosso, en fait, ce petit pain.
C'est
le Brésil en une bouchée,
oui.
Et qui a une texture incroyable parce qu'il est à la fois élastique. Donc c'est un petit pain de manioc fait avec la farine de manioc. Comment est-ce qu'on le fait, ce pain?
Ouais, alors le pain de queijo, c'est de la farine de tapioca, en fait, qui est dérivée du manioc. Et forcément, le manioc, on peut faire plein de choses avec le manioc.
Mais il est formidable, cette...
Non, c'est le produit le plus anti-gaspi qui existe, c'est le manioc. Et donc, cette petite farine qui ressemble presque de la maïzena. Et il y a une façon de le préparer, c'est-à-dire qu'il faut escaldar à gomme, parce qu'en portugais, on appelle ça à gomme. Et pour escaldar à gomme, il faut rajouter de l'eau chaude ou du lait chaud, mais chaud bouillant. Hein. Et chez Nosso, on met de l'huile et de l'eau, qu'on fait un mélange très chaud bouillant, et on verse par-dessus, on mélange tout, et ça va développer en fait l'élasticité de la pâte. En fait, c'est ça qui va développer cette élasticité. Et pour que ça soit encore plus élastique, mais en même temps fondant, mais en même temps, on met du fromage avec. C'est, waouh.
Terrible. Et c'est quoi comme fromage, d'ailleurs? Parce que...
Alors, on peut mettre plein de fromages différents. Là, en ce moment, j'ai mis de l'emmental. Mais on peut mettre du comté, qui est un fromage un peu plus fort. Puis on peut faire plein de choses avec.
Le fromage qu'on a sous la main, quoi.
Le fromage qu'on a sous la main, et c'est hyper simple, la recette est hyper facile.
Vous nous la donnerez?
Je donne tout de suite à qui veut. Allez, on y va, on donne la recette.
Allez-y, si vous voulez. Sinon, on la met sur la page internet.
On la met sur la page.
C'est pratique, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écoute des émissions de recettes et j'entends des recettes, j'arrive jamais à retenir comment, le nombre de grammes de tout
on
ça.
On va mettre sur la
page. Rassurez-vous, ils seront sur la page internet.
Et je veux que vous m'envoyiez une photo sur Instagram. Je veux voir les résultats.
Vous entendez? Moi y compris?
Oui.
D'accord.
Tu
moi
veux
y
voir
compris.
Tout le monde.
Vous avez servi ce pain. Alors ce pain, c'est il est intéressant parce que c'est une petite bouchée de rue en fait, on peut le manger
partout. Partout, il y en a partout. Comme à Paris, on a la baguette partout, bah là-bas on a le pain du queijo partout.
Mais vous avez mis du caviar dessus.
Ouais, moi j'ai mis du caviar parce que je me suis dit c'est un truc tellement qu'il y a partout au Brésil, mais tout le monde mange, enfin même les gens qui sont les plus bas revenus mangent. Alors j'ai dit, je vais mettre un truc dessus, vraiment pour créer un contraste à 360 degrés, je vais voir ce que ça donne. Moi, je trouvais ça hyper bon. Et en fait, c'était pour... pourquoi on ne peut pas manger le pain du queijo avec du caviar?
Du très simple avec du super luxueux.
Du super luxueux, et en fait, ça fonctionne super bien, c'est très très bon.
Je voudrais savoir, Alessandra Montagne, si là je vous dis... Vous avez la possibilité d'avoir votre table idéale. Un autre Nosso, mais encore plus idéal. On oublie tout ce qui est question financière, tout ce qui est question de ressources, de quoi que ce soit. Elle serait comment, cette table absolument idéale? Où
c'est
et
marrant.
Qui s'assiérait?
Alors, c'est dingue, parce que hier soir, j'étais en train d'écrire ce que serait mon endroit idéal. Alors, c'est très simple. Ce serait déjà dans un endroit entouré d'arbres, de nature, au bord peut-être d'un étang. Et cet endroit, je ne veux pas de notion d'argent dans cet endroit. Je veux un endroit brut où les gens viennent pour se réparer. Avec un grand potager. Je ne sais pas comment faire pour savoir qui vient pas, mais je veux pas de notion d'argent, je veux une notion de partage, une notion de se réparer, de passer une journée, de participer aux entretiens, au nettoyage, à la cueillette, à la cuisine. Je ne sais pas comment ça peut exister parce que, enfin, j'ai jamais vu un endroit comme ça, mais ce serait mon endroit idéal, un endroit où il n'y a pas de notion d'argent.
Où tout le monde pourrait s'asseoir.
Où tout le monde pourra s'asseoir.
Ouais. Se restaurer. Ça me rappelle une autre de vos expériences, Alessandra Montagne, le réchaud.
Ah, le réchaud, hein, j'aime tellement Vanessa, j'aime tellement cet endroit.
Donc c'est un endroit, un refuge,
oui.
Où on se réchauffe le cœur, on restaure les hommes,
c'est
on restaure
ça.
Le monde de cette manière, et c'est Vanessa Krisev qui l'a monté. Et évidemment, je suis allée voir Vanessa Krisev.
J'aime.
Alessandra, je l'ai rencontrée en 2018, au Dîner des Humanités. Enfin, un peu avant, parce que Paul Masson nous avait fait travailler ensemble avec tout un collectif de chefs engagés. Et ça a été une révélation, cette grande famille et belle famille de chefs humanistes et engagés. Ça a été un peu un coup de cœur amical, très solaire. Je l'ai rencontré à travers son plat signature de poitrine de cochon confite d'une générosité dingue à son image. Et on a fait donc ce dîner le Banquet des Humanités ensemble et on a enchaîné avec le Grand Réchaud, qui est un des projets de l'association Le Réchaud. Elle est venue avec nous à Arras et elle est devenue très rapidement une ambassadrice phare du projet de cuisine solidaire porté par l'association. Pour moi, c'est, je pense, comme pour beaucoup de personnes, un rayon de soleil, une petite pépite de caramel au beurre salé. C'est une vraie source d'inspiration. C'est une femme puissante, c'est une femme vibrante, rayonnante, hyper forte. Et ça swing, quoi, avec Alessandra. C'est un éclat de rire, c'est du soleil dans l'assiette, c'est toute son histoire qui l'accompagne dans chaque minute de sa journée. Et ça reste une femme chef exigeante, charismatique, qui emporte tout le monde, mais elle le fait en dansant, elle le fait en chantant. Et en même temps, c'est une personne très engagée, mais extrêmement présente et pour tout le monde. Et je ne sais pas comment elle fait. C'est hallucinant. Donc, c'est une femme, oui, d'engagement. C'est une femme de justice. Et c'est une femme de générosité qui fait passer les autres avant elle.
Ben, mais sacrée Sève, fondatrice du Réchaud.
Oh, je l'aime tellement.
Je crois que c'est réciproque.
C'est pour moi, c'est un modèle de femme, d'humain. Si vous pouvez avoir plein de Vanessa partout.
Vous vous impliquez toujours volontiers. Il y a eu un repas en soutien aux femmes afghanes organisé également par le Refugee Food Festival. C'était il y a 10 jours, vous y étiez.
Oui, je ne peux pas dire non à ce genre de choses.
Le Refettorio à Paris aussi, où JR poste une vidéo. Il veut dire, quand tu veux, Alessandra, je suis ton commis de cuisine parce que c'est tellement un plaisir de travailler avec toi, d'être à tes côtés. Vous êtes allée le chercher, en fait, ce que vous êtes devenue aujourd'hui.
J'ai pas fait exprès. Tu vois, c'est ça qui est marrant, parce que quand on me dit Alessandra, là, il y a les femmes afghanes, les enfants, on les amenait en France, mais là, elles ont besoin d'argent pour s'habiller, tout simplement, ou, enfin, je peux pas dire non, en fait, je peux pas. Et pour moi, je trouve que c'est une obligation, en fait. Aujourd'hui, je m'en suis sortie, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai plein d'affaires.
Un fils qui a réussi.
J'ai un fils qui a réussi, qui est très heureux, qui est très beau. J'ai une petite fille de 15 ans qui est incroyable. Je suis entourée, j'ai beaucoup d'amour, plein de belles choses. Je ne peux pas ne pas partager, donner un peu, en fait. Tu vois, je me sentirais mal, en fait, de ne pas donner un peu de mon temps. Ce n'est que reconnaissance, en fait. Donc, quand on me dit « Alessandra, viens », je dis « D'accord, je viens
». On écoute quoi comme musique?
D'accord.
Si je vous demandais, Alessandra Montagne, pour terminer, si l'amour avait un goût aujourd'hui, quel serait le goût de l'amour?
Le goût de l'amour, ça peut changer. Des jours, des jours c'est une orange, des jours c'est une fraise, des jours c'est un jus de volaille. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est le pain du quiche. Parce que tu viens de me parler, j'ai envie d'en manger.
Moi aussi. D'ailleurs, je pensais que vous en apporteriez.
Prochaine fois, j'apporte.
D'habitude, on conclut avec un ingrédient et un ustensile.
Oui, alors l'ingrédient, l'eau, ça devient rare l'eau aujourd'hui. On peut rien faire sans eau. Si on n'a pas d'eau, y a pas de cuisine. Donc l'eau, c'est mon ingrédient et mon ustensile. J'ai besoin tout le temps, quoi qu'il arrive, d'un couteau pour pouvoir couper mes légumes. Voilà, l'eau pour cuisiner, pour mettre dans ma soupe, pour faire mes jus.
Pour faire tout, pousser vos plantes.
Pour faire pousser les plantes, pour faire mes compléments alimentaires. J'ai besoin d'eau aussi, donc l'eau et un couteau pour pouvoir faire le prolongement de mon bras.
Merci Alessandra Montagne.
Merci.
Moi, je veux bien cette table idéale. On va vous aider à la créer, ce serait bien ça.
Oui, ce serait bien. L'endroit de la réparade, on vient pour se réparer.
Se réparer. Ouais. Alessandra Montagne, son équipe, c'est Nosso, donc, et c'est au 22 Promenade Claude Lévi-Strauss dans le 13e arrondissement à Paris. Il y a le cochon rôti, évidemment, et bien d'autres délices. Sa table est un refuge. Vous pouvez suivre Alessandra sur les réseaux et lui dire, comme à nous d'ailleurs, ce que vous avez pensé de cette émission. Lui envoyer des mots doux, comme à nous aussi d'ailleurs. Le goût du monde sur WhatsApp, c'est 33 6 43 16 15 66. On en profite pour saluer Mohamed Camara qui nous écrit depuis la Mauritanie. N'hésitez pas à nous écrire tout plein de choses, on adore. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde ce goût du monde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure.